Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, l'épisode 67. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. Qu'est-ce qui se passe de bon cette semaine, Paul?
Qu'est-ce qui se passe de bon? Il y a quelqu'un à Rio de Janeiro, le maire pour être précis, qui a proposé publiquement comme ça de financer la totalité du prochain film de Woody Allen s'il vient de tourner dans la ville.
Mais ça, en fait, c'est nouveau que ça se concrétise, mais c'est pas nouveau qu'on en parle, ça.
Des villes qui attirent Woody Allen.
Ouais, qui essaieraient d'attirer Woody Allen. Non, mais je sais pas, parce qu'il doit avoir des retombées économiques. Ça doit se quantifier, ça. Ça doit se calculer, les retombées qu'un film de Woody Allen peut faire sur une ville.
Ben, j'ai fait des petites recherches, justement, pour voir c'est quoi à peu près le budget d'un film de Woody Allen. Matchpoint, qui était tourné à Londres, on parle d'un budget de 15 millions. Midnight in Paris, à Paris, 17 millions. Donc, c'est sûr, est-ce que ça se calcule? Je ne sais pas, pour une ville comme Paris, comme Londres, que c'est déjà des villes qui ont beaucoup, beaucoup de tourisme, c'est comme, comment tu fais pour vraiment savoir c'est quoi l'impact? Mais je pense qu'une ville comme Barcelone, par contre, encore une fois, c'est une ville très touristique. Mais un film comme, je sais pas, me semble, Vicky Cristian Barcelona, c'était beaucoup plus, singulier comme film. T'sais, j'ai l'impression.
C'était attrayant, c'est ça. On sentait vraiment l'espèce de chaleur. C'est qu'il n'avait pas juste utilisé la ville comme un backdrop. Il avait vraiment utilisé, je trouvais, la couleur, la saveur. Ouais.
Quoique Minuit à Paris aussi, tu sais. Mais c'est juste que j'ai l'impression que Paris, on la voit dans plusieurs films. T'sais, c'est une ville tellement déjà comme connu, que j'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose.
Mais il me semble que c'est inspirant. Moi, je trouve que c'est un bon move de sa part, puis c'est tellement inspirant pour un cinéaste juste avoir comme un setup avant de construire un film autour. Tu sais, Hitchcock qui disait toujours « Tu trouves ton lieu avant de trouver ton histoire », puis le résultat est là, il me semble. Mm. Puis tous ses derniers films étaient tellement bien cordés sur des villes différentes.
Est-ce que c'est malsain, par contre? De dire « Ah, mon prochain film va se passer à Rio, parce que, il m'a fait payer le film. »
Ça varie de New York, en tout cas.
ça, c'est sûr. Ben là, en fait, moi, je vais faire mon tease. Là. J'ai vu Blue Jasmine. Je pense que j'en parlerai pas nécessairement cette semaine. J'aimerais ça attendre qu'on soit plus à l'avoir vu. Mais dans Blue Jasmine, on est à San Francisco. Puis encore une fois, il utilise vraiment la ville. Par contre, il tombe pas dans le piège d'un film comme To Rome With Love. Dans To Rome With Love, c'est qu'il utilise la ville, mais il utilise aussi tous les clichés. Fait que là, ça devient, comme par exemple, t'as évidemment le chanteur d'opéra, t'sais, dans To Rome With Love, je trouvais qu'il y avait énormément de clichés qui venaient avec la toile de fond, alors c'est que ça. Dans les films qu'il fait aux États-Unis, non, on est vraiment les personnages avant tout, puis Blue Jasmine le prouve, parce que c'est un de ses films les plus profonds au niveau des personnages dans les récentes années.
Ouais, To Rome With Love, c'était vraiment une poutine dans le dress, comme je dis souvent, là, c'est juste trop d'affaires en même temps qui fait que... Tu coûtes plus vraiment les saveurs du film, là, c'est comme...
Ouais, mais je trouve que l'effet domino, le premier domino à être tombé, je pense que c'est vraiment de trop avoir voulu être axé sur Rome. Donc, est-ce que
c'est ça, donc, c'est où la limite?
Ouais, c'est ça, c'est où la limite? Bon, regarde.
C'est parce que sinon, tu fais comme un espèce de film carte postale, presque. Puis, je sais pas à quel point, tu sais, c'est positif de voir... parce que To Rome With Love, moi, je trouve qu'on est dans le désastre, carrément. Pour ces autres films qu'on a nommés avant, ça allait. Non, mais je trouve vraiment que c'est un film là, insignifiant. Mais donc, tu sais, je dirais pas non plus que sa carrière, ce qui reste de sa carrière, ça se conclut sur des films carte postale.
Ouais.
Mais il a l'air tellement décomplexé, puis il a l'air tellement à faire ce qu'il veut. Ouais, je pense qu'il va le faire s'il veut le faire. Là, moi, je pense qu'il n'y a plus d'affaire d'être sell-out ou pas. Je veux dire, regarde, si ça fit, puis il va le prendre ou pas. T'sais, je veux dire, c'est Woody. Il faut avoir foi. Mm. Puis oui, une fois sur deux, peut-être qu'il se plante ces temps-ci, mais quand il frappe fort, il frappe fort. Puis encore une fois, je vais faire mon tease, mais Blue Jasmine, ça frappe fort. Midnight in Paris, ça frappe fort. Ouais.
Et l'autre question pour vous, est-ce qu'on devrait demander à Laurent Blanchard de sortir le chéquier? Ou à Régis Labeaume?
C'est ça, on dirait que c'est plus Régis qui pourrait attirer Woody. Je suis sûr qu'il pourrait...
C'est plus dans son edge aussi, là, parce que là, avec Montréal, de toute façon, les maires sont tellement en rotation que si c'est en un qui a l'idée, le prochain ne l'aura plus, là.
Ouais, c'est ce que
le mot prochain, quand on aura notre prochain maire, là, il va.
D'ici à ce que notre podcast soit en ligne,
c'est ça. Old news. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, Québec,
c'est une ville cinéphile.
Il y a Hitchcock qui a fait le film Icon Fest à la ville de Québec. Puis il y a Robert Lepage qui le met beaucoup, beaucoup en évidence dans un film comme Le Confessionnal, justement, qui reprenait un peu une toile de fond de Icon Fest de Hitchcock. Mais Je trouve que Québec, je veux pas non plus partir une rivalité bidon, là, Québec-Montréal, mais je pense que Québec pourrait se prêter peut-être mieux à. Parce que je sais pas, il y a comme un charme européen peut-être que Woody Allen pourra flairer, mais en même temps, c'est connu que Woody aime vraiment beaucoup la ville de Montréal.
Ouais,
il est venu
souvent,
avec le festival de jazz, il est venu dans différents. Je sais pas s'il est venu pour les festivals de films, sûrement, là, de salon de carrière, mais pour le festival de jazz, il est venu à maintes reprises.
Ouais, donc, en tout cas, bref. C'est des questions qui restent en suspens. Je trouve ça quand même étrange de voir un maire annoncer publiquement. Ça fait un peu comme une espèce de...
Offre aux enchères.
Ouais, exactement. Comme qui va offrir le plus. Lui, à Rio, on offre la totalité du film. Peut-être que ce sera la totalité plus une partie des recettes. Bref, on verra.
Je pensais que tu allais dire une partie de baseball.
Ouais, aussi, ou des billets pour le Canadien.
Ouais, c'est ça.
Sinon, on va y aller. Ah oui, autre chose, évidemment. À l'heure où on enregistre, on est à moins de 12 heures du début du lancement du 37e Festival des films du monde de Montréal.
Yay!
Est-ce qu'on a besoin d'en parler encore?
Paul hype tellement sur l'événement sur Facebook. Là, il nous envoie des nouvelles tout le temps.
À tout le monde.
Moi, pour vrai, je connais pas beaucoup le festival, puis je le connais par Paul. Fait que,
ah, mais, c'est sûr qu'à point de vue, je veux quand même qu'on reste plutôt objectif. Là. J'ai certains messages un peu de mauvaise foi que je partagerai pas nécessairement en ondes. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que quand même, c'est un festival de films qui débute, j'encourage les gens à y aller. Et, non, mais quand même, tu sais. Puis d'ailleurs, j'ai appris, on n'avait pas parlé dans nos films qu'on conseillait, mais entre autres, il y a un documentaire de Ken Loach qui s'appelle The Spirit of 45.
Ouais.
Donc, Ken Loach, c'est une valeur sûre. Sinon, il y a aussi un film aussi que j'ai vu des extraits parce qu'il y avait des projections de presse pour les journalistes. C'est le film Dark Blood. Et en fait, ça, c'est un film inachevé, le dernier film de River Phoenix, entre autres, frère de Feu, le frère de Joaquin Phoenix. Et en fait, au début du film, il y a comme une espèce d'introduction au film, une mise en contexte par le réalisateur. Ça, c'est un film qui a été tourné comme il y a 25 ans, whatever. Puis là, ils n'ont pas tourné une nouvelle scène, c'est juste qu'ils ont fait un montage. Et le film est inachevé. Et le réalisateur, dans son introduction, il utilise une métaphore et dit « J'ai toujours eu une chaise avec deux pattes. » Et là, comme je m'en viens vieux, j'étais malade, ben je me disais, il faudrait peut-être que je fasse honneur à la mémoire de River Phoenix en finissant le montage au moins, de ce que j'ai, pour donner une troisième patte à la chaise. Il va toujours nous manquer la quatrième patte. Personne ne pourra s'asseoir sur la chaise, mais c'est une chaise qui va pouvoir tenir debout. Donc, je trouve ça intéressant comme espèce d'analogie. Donc, en tout cas, bref, peut-être pour les cinéphiles pointus qui veulent voir un peu l'ultime œuvre d'un acteur qui nous a quittés beaucoup trop jeune. Sinon, on va y aller avec rapidement parce qu'on a un gros menu. Chacun a un film qu'on a vu individuellement avant de finir sur notre film, un film qu'on a vu tous les trois.
Moi, j'ai une nouvelle que je trouve intéressante, en fait.
Ouais.
Il y a le gars qui a fait Snowtown, là, qui s'appelle Justin Kurzel, là, qui est un film correct. Mais il fait une adaptation de Shakespeare. Puis, tu sais quoi le casting pour... de Macbeth, de Shakespeare. Puis, en fait, Lady Macbeth serait jouée par Marion Cotillard. Puis Macbeth, dans le fond, est joué par Michael Fassbender. Fait que, me semble que je trouve que c'est un duo d'acteurs assez alléchant. Puis une adaptation de Shakespeare, c'est toujours moi qui y sera au rendez-vous.
D'ailleurs, est-ce que tu as vu finalement Much Ado Abbott noté?
Non.
De Jess Whedon. Mais il sort en DVD bientôt, là, donc.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas nécessairement le film à voir en salle à tout prix. Là.
Alors, on va y aller avec nos critiques. Rémi Fréchette, tu as vu le deuxième film de Neil Blomkamp, Elysium.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur le podcast. Donc oui, Elysium, le dernier film de Neil Blomkamp, on est en 2154 avec le personnage de Matt Damon qui s'appelle Max. Puis en fait, dans ce futur-là, la Terre est surpeuplée. Donc, y a beaucoup de maladies, tout le monde est malade, et dans le ciel, il y a une espèce de station spatiale qui a été érigée qui s'appelle Elysium, où les riches sont envoyés. Donc, vraiment, la haute classe vit là-bas.
Quelle subtile métaphore.
Oh my god! Mais je pense qu'on y va pas pour la métaphore, c'est vraiment un gros film hollywoodien à gros budget, un gros bonbon, là. Puis ça reste pas mal dans ses thèmes, en fait, hein, parce que District 9, c'était vraiment basé sur des thèmes vraiment similaires, là.
Puis il fait encore en Afrique du Sud aussi, ça, c'est
ouais, il reste,
mais dans le bon sens, en fait.
Il reste dans sa patrie, là. Puis c'est ça, puis sur Elysium, bon, ça, c'est un petit plot hole, parce que tu te demandes pourquoi il n'y a pas ça sur Terre, mais sur Elysium, dans toutes les maisons, il y a des espèces de lits. C'est de la science du futur, là, mais c'est des lits magiques là, qui enlèvent toutes les maladies de ton corps puis qui te guérissent en une seconde et quart. OK. Fait que, bon, disons que ça, c'est un peu le weakest...
Ça fait très jeu vidéo, en fait.
Ouais, exactement. Puis surtout, en fait, que le problème, c'est qu'autour de tout ça, dans le film, les technologies sont quand même assez réalistes. J'ai appris dernièrement que Neil Blomkamp, dans le passé, avant de faire des films, lui, designait les pochettes des magazines scientifiques, les espèces de technologies qui vont peut-être exister dans le futur, puis les planètes, puis tout. Lui, designait ça. Fait que tu vois vraiment cette espèce d'inspiration. Ah,
méchante promotion, hein?
Oui, c'est ça. mais pour vrai, tu sais, il y a des drones, il y a des espèces de d'armures robotiques. C'est tous des trucs qui sont en développement. Fait que c'est des trucs assez réalistes. Sauf qu'au travers de ça, ben, t'as des lits magiques qui guérissent le monde en une seconde et quart. Puis Matt Damon, lui, il travaille dans une grosse usine à robots. Puis il se fait mettre dans une... Ben, il y a un accident dans l'usine, puis il se fait exposer à des grosses radiations, puis il y a 5 jours avant de mourir. Donc, son but, c'est d'aller rejoindre Elysium le plus vite possible pour se faire guérir.
Ça aussi, c'est jeux vidéo à fond, là. Genre la mission claire avec comme...
Ouais, puis t'as le méchant qui est ultra défini, qui est joué par... il s'appelle Charlton Copley. C'est genre le gars qui joue en fait le rôle principal dans District 9. Ouais. Là, il joue le bad guy qui est vraiment badass là-dedans. Là. Mais reste que, tu sais, OK, c'est un film vraiment moins subtil que District 9. T'sais, District 9, je pense que c'était pas fait à un énorme budget, mais c'était... Bon, vous l'avez tous vu, je pense que c'était ultra, ultra balancé film. Ben ça...
C'est que ça misait sur ses forces. C'était vraiment bien fait là où ça performait, dans le fond. Là.
Moi, j'ai toujours pas vu, d'ailleurs.
Non, c'est bien. Ben, c'est pas un... En tout cas, je trouve que le film a été un petit peu overhypé, là, à mon avis. Là. C'est pas un grand, grand film ni rien, mais je trouve que c'était efficace.
Je pense à la surprise aussi, l'espèce de cinéaste inconnu qui sort de nulle part.
Ouais, c'est ça.
Puis il y avait une forme assez originale autour. Là. Ça commence comme un faux doc, puis graduellement, ça devenait une fiction plus standard. Là. Ouais. Mais c'était comme vraiment graduel au travers du film. Puis ça, j'avais trouvé ça bien intéressant. Puis c'est ça, puis c'était vraiment centré sur un personnage. Là, ils sont allés là, vraiment Hollywood style. Mais tu sais... Reste que des failles scénaristiques, comme je vous dis, les espèces de lits, pourquoi qu'il n'y en a pas sur Terre? Pourquoi, on est souvent dans des hôpitaux en plus sur Terre, puis tu vois que les hôpitaux sont bondés. Pourquoi il n'y en a pas comme un qui soigne tous les patients à la chaîne, tu sais? C'est juste les...
Ça, là, c'est comme dans Pokémon, genre, tu sais. Il faut vraiment que tu arrives à la ville pour pouvoir soigner tes Pokémon. Puis parce qu'avant, c'est ça le stress, en fait. Tu n'as pas accès à, genre... Le lit qui régénère tes Pokémon dans 5 secondes.
Ouais, sauf que sur Elysium, il y en a dans toutes les maisons. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas un lit genre qui rit tout le monde. Ça, c'est vraiment. Moi, j'étais super hypé en sortant du film. J'étais avec Hugo Meyrand qui est venu parler du podcast il y a quelques épisodes. Là. Puis, tu sais, c'était lui qui était comme, ouais, mais les lits. Là, j'étais comme, mais oui, mais c'était cool. Non, mais les lits, ouais, t'as raison, dans le fond. Parce que, tu sais, tout le monde, dans toutes les maisons, ils ont des fucking lits qui guérissent tout le monde. Tu pètes une fenêtre, tu rentres, il n'y a personne, puis tu te fais guérir. Fait qu'en tout cas, c'est ça, c'était un gros plot hole, mais le reste du film, ça reste que c'est un gros film hollywoodien, mais avec un rythme assez spectaculaire, puis il n'y a pas de temps mort, puis l'histoire, elle progresse tout le temps de la bonne façon, là, mettons, je pense que tu te laisses porter par le gros récit science-fiction, puis, tu sais, c'est rare qu'on a des gros films de sci-fi comme ça, là, avec des, tu sais, mais ça me semble ça fait longtemps, là. Ben là, on a eu Pacific Rim, là, cette année, qui était, je pense...
Ouais, puis genre Oblivion aussi, quand même, non, cette année,
ouais, mais ça, je vais pas voir ça, puis After Earth non plus, je vais pas voir ça.
Non, je sais, mais en même temps, juste pour dire qu'il y en a eu, qu'il y a peut-être un simili regain là, qui essaye de revenir. Moi, j'ai une question par rapport à Matt Damon. Moi, Matt Damon, là, c'est bien bipolaire, mon affaire. Autant je l'aime bien que je l'aime pas vraiment pas dans certaines affaires. Je trouve que, honnêtement, Matt Damon, on dirait que je sais pas pourquoi c'est devenu un action star, tu sais, comme une vedette de film d'action, parce que moi, je trouve que quand il fait des drames, je l'aime beaucoup. Puis quand il fait des films d'action, je le trouve tellement blank, là, en général. Puis ça, j'inclus les Bourne, là. Je vais même peut-être m'attirer les foudres de certains auditeurs, mais même dans les Bourne, je trouve que comme c'est complètement incompétent, son affaire. Puis je veux savoir comment il s'en sort dans Elysium.
C'est que c'est un action hero assez ben, comme standard, là, dans le fond, parce que je pense... Pour vrai, c'est... Je peux pas dire que c'est lui qui a... Ben, il offre une bonne performance, mais qui sort le film. Je pense que c'est plus le film qui est autour qui crée un bon Matt Damon que Matt Damon lui-même qui met une performance spectaculaire.
Il y a pas vraiment le charisme, mettons, d'un Bruce Willis.
Il est très casting classique. Là. C'est un peu comme le gars là, qui est plugé dans tous les films. Là, comment il s'appelle, le gars dans Hurt Locker? Là. Jeremy Renner. C'est comme, ouais. C'est une face, là. Puis c'est le film autour qui fait que c'est bon, mais Jeremy Renner fait pas nécessairement qu'un film est bon, là, d'après moi, là. Mais c'est un peu ça, tu sais, parce que le film est tellement. C'est un gros film spectacle, puis c'est. Neil Blomkamp, pour vrai, là, j'ai rien à dire sur sa réalisation. Il est tellement en contrôle du médium, puis, tu sais, il sait jouer avec les devices de science-fiction de la bonne façon. T'sais, tu vois ce bagage-là, comme je vous disais, le bagage vraiment scientifique là, autour de tout ça. Là, c'est pas juste comme on en met plein la vie. Il y a quand même des trucs vraiment intéressants au travers de la science qui est développée. Beaucoup de robots aussi. Là, ça, par exemple, j'y crois un peu moins qu'en 2154, il va y avoir des robots policiers et des affaires de même. Là. Mais c'est ça. Overall, pour vrai, Elysium, c'est un gros divertissement qui marche très bien. Là.
Dans la plupart des films de science-fiction, ben là, c'est drôle parce que autant tu prends les films de science-fiction des années 50 puis tout ça, ben, et plus, là, me semble qu'on avait quand même souvent une espèce de regard relativement optimiste un peu là, de l'avenir, mais là, il me semble que ces temps-ci, c'est tout le temps, tu sais, comme c'est ça, ben, là, évidemment, la planète qui se meurt et compagnie. Non, puis c'est correct en même temps, là, je veux dire, on n'a pas vu la nouvelle cette semaine que justement, je pense que la Terre a épuisé plus de ressources, on est au mois d'août, puis a épuisé plus de ressources
que ce que nous voulons.
Ouais, c'est ça. En tout cas, mais c'est pas grave, je suis d'accord qu'on doit et qu'on peut être pessimiste, mais je me demande juste, en fait, qu'est-ce qu'un film comme Elysium amène de nouveau sur la table. Comme tu dis, il y a des devices de sci-fi qui sont intéressants, il y a des technologies qui sont cool, mais...
My God, quelle question! Qu'est-ce que ça amène de nouveau? Pour vrai...
Ah non, mais je sais pas.
C'est un peu dur.
Je dois dire rien.
Ben, je pense que je vais pas dire grand-chose, parce que pour vrai, c'est tellement des sujets classiques, puis c'est tellement du gros cinéma-spectacle. Tu sais, comme je disais... Je pense que la critique sociale autour de District 9 était déjà un peu plus intéressante de la façon que c'était fait. Là, c'est un peu dans ta face. Là, j'ai parti le synopsis en vous disant comme directement ce que c'est, puis c'est parce que c'est trop évident.
Ouais, les riches, les pauvres.
C'est le fun de comparer ce film-là avec un autre film de 2013, Upside Down. Je pense pas que vous l'avez écouté.
Non.
Aucun des deux.
Non, j'ai pas vu.
C'est comme le film de science-fiction qui a été tourné, je pense qu'il a été tourné à Montréal sur pratiquement juste des fonds verts.
Okay.
Puis en gros, c'était comme un monde qui était comme... Tu sais, les deux planètes comme les uns qui touchaient à l'autre quasiment, genre à 10 mètres près. Puis là, t'avais la planète des pauvres, la planète des riches. Là, puis là, c'est comme le gars pauvre qui va être... tombe amoureux de la fille riche.
C'est ça, c'est comme la nouvelle façon de faire des films comme My Fair Lady. Tu le fais maintenant avec comme
des trucs de sci-fi. Là. Mais pour vrai, c'est un film basé. Il y a beaucoup de death scenes, mettons, là, du monde qui se font gonner, puis c'est tout le temps des explosions de corps, puis c'est ultra gore, les morts. Mais c'est comme c'est un film qui a des couilles, là, mettons. Puis si vous avez la chance de le voir au cinéma, je vous le suggère très fortement, comme gros blockbuster. Allez vous gâter avec un popcorn, puis ça fait vraiment la job.
Hey, mais dans le film, Rémi, là,
ouais.
Est-ce qu'il explique c'est quoi la limite, genre, de comme régénération des lits? Tu sais, jusqu'à quel point tu peux te faire guérir, genre?
Non, pour vrai, là, c'est parce que...
T'as couché puis avoir un bras?
Il y a un autre plot point que j'ai pas parlé, mais qui est bien important aussi, c'est que il y a beaucoup de flashbacks de lui quand il était petit avec une de ses amies, puis ils se font une promesse, ils ont comme 8-9 ans, puis ils se font une promesse que quand ils vont être grands, lui, il va l'amener sur Elysium. Puis là, au travers du film, il la recroise, elle est rendue une infirmière, puis sa petite fille a la leucémie. Subtil, mais non, mais c'est ça. Mais fait que là, il recroise, mais lui, c'était comme il est allé rogue pendant un bout, puis il était rendu comme un voleur de voiture. Fait que ils se sont comme séparés, mais là, il se retrouve au travers du film, puis il veut pas la mettre dans marde. Mais là, elle par exemple, elle a besoin de son aide, puis fait que il y a tout ça autour. Fait que vous savez un peu où ça s'en va, là, tout ça. Là. je pense que c'est pas, on y va pas pour avoir plein de surprises au niveau de l'histoire, mais pour vrai, c'est ça. Là. Comme je dis, c'est juste un gros film loud, puis ballsy. Là.
Mais je pense que le concept peut vraiment... Il y a vraiment plein de questions qu'on peut se poser sur genre... Tu sais, mettons là, t'aurais, je sais pas moi... Tu sais, Superman qui est dans un des lits. Mais là, il y a du kryptonite avec lui. Genre. Est-ce que ça s'annule?
Ah, sérieux, là. T'essaies de trop rendre ça... T'essaies de encore plus le jeu vidéoisé qu'il est déjà.
Il y a un doute dans le film qui perd un membre, puis il se fait refaire le membre par le lit. Là. C'est à ce point-là.
C'est
là.
Ça?
Oh, okay. tout se fait, là. Genre, le lit, là, il est magique, là. C'est un peu comme les ordinateurs dans un film des années 80, là. Genre, tu pèses une touche, puis tu crées une femme, là, tu sais. C'est une référence à Weird Science, c'est un peu loin, là, mais, tu sais, c'est un peu ça, là. C'est comme le lit est magique, là. Genre, c'est de la technologie du futur, fait que ça fait n'importe quoi. Mais en tout cas, mais au moins, tu sais, pour vrai, là, Neil Blomkamp a une signature. Puis là, il vient d'annoncer, en fait, que son prochain film, c'est à propos d'un robot, parce qu'il y a encore des robots, puis c'est encore en Afrique du Sud, je pense. Puis The Antwoord vont être les méchants là-dedans. Ça...
Oui!
Oh, oui, c'est oui, moi, je suis comme. Je suis vraiment thrilled, pour vrai. Puis, tu sais, il garde sa signature. Pour vrai, on reconnaît beaucoup, beaucoup de trucs qui suivent de District 9 à Elysium. Puis, c'est ça, je trouve ça le fun parce qu'il y a sa griffe, puis il met ça dans un gros film hollywoodien. T'sais, c'est un peu comme bon, il y a beaucoup d'haters de James Cameron, mais tu sais, quand James Cameron fait un film, c'est un aussi gros film, mais tu reconnais la signature de James Cameron. T'sais,
mais j'ai une question sérieuse pour toi, Rémi. Est-ce que avec un troisième film en, mettons, 7-8 ans de science-fiction qui se passe en Afrique, t'as-tu encore hâte de voir son prochain film?
Ouais, pour vrai, moi j'ai vraiment eu du fun, puis j'ai pas senti que c'était une copie de District 9. Okay. Pour vrai, tu sais, c'est tellement un coin de pays que moi je connais pas bien là, l'Afrique du Sud. Puis c'est, je sais pas, je trouve qu'il y a tellement d'histoires à raconter que let's go Neil Blomkamp, let's go Neil Blomkamp.
Non, mais, non, mais t'as raison, tu sais, je veux dire. On reprocherait pas non plus à Woody Allen de faire, tu sais,
son film annuel. 1000 films à genre Manhattan.
Trois films en 7-8 ans, non, c'est pas non plus comme la fin du monde. Tu sais, pourquoi qu'on n'aurait pas justement un cinéaste qui est spécialisé dans la science-fiction, tu sais? Il y en a très peu. J'ai l'impression que la science-fiction, c'est un peu un genre, tu sais, un peu...
passager.
Ouais, c'est ça, parce que c'est pas un genre qui est très populaire, qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, souvent, tu sais, on a qui d'autre? On a peut-être J.J. Abrams, là, qui se tient beaucoup dans la science-fiction. On a quelques-uns cinéastes, mais la plupart du temps, on dirait que t'en fais un, puis après ça, tu retournes avec de quoi de plus safe, mettons.
Ben, Elysium, il était troisième au box-office, fait que tu sais, c'est. Je sais pas si c'est super. Je sais pas si c'est un super chiffre, là. Je pense que c'est
ouais, standard. Derrière, genre, mid de Millers.
C'est ça.
Sinon, cette semaine, j'ai eu la chance de voir un de mes films les plus attendus de l'année. C'est un film qui a mis 5 ans à être construit.
Mid de Millers?
Non, pas ça. qui a nécessité la collaboration de plusieurs pays. Qui, encore une fois, réunit la muse Tony Leung et le cinéaste Wong Kar-wai. C'est le film The Grandmasters.
Mm.
Et en fait, c'est drôle parce que la version qui va sortir sur les écrans en Amérique du Nord est donc alexandriste le 30 août. C'est en fait une version charcutée par de la Weinstein Company. Parce que c'est une autre controverse là, que j'aborde rapidement. Mais Weinstein Company sont. Déjà, c'est une des seules compagnies qui prend vraiment au sérieux les films asiatiques. T'sais, on leur doit entre autres la distribution en Amérique du Nord de Héros, de Zhang Yimou, les Kill Bill, des films américains, mais des films un peu de samouraï. Aussi, là, ils vont distribuer le prochain Snowpiercer, le personnage de Bong Joon-ho, un cinéaste coréen. Donc, tu sais, ils ont distribué vraiment des perles. Cependant, de plus en plus, ils font des versions un peu américaines, c'est-à-dire des remontages pour un peu couper dans le gras, entre guillemets, et offrir des versions plus simplistes des films.
What?
Donc, ouais, c'est ça. Donc, The Grandmasters, en fait, dans sa version nord-américaine, va perdre une vingtaine de minutes.
Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'elle dure 108 minutes. Puis la version chinoise, qui était quand même un hit en Chine. Ouais. Là, on parle quand même d'un
mais
film
c'est aberrant,
qui est succès critique, succès populaire. Ouais. Puis c'était pourquoi? C'était 2h10?
2h10, c'est la version que j'ai vue, en fait, qui était présentée en ouverture du Festival des films chinois. Donc, une différence, c'est ça, d'une vingtaine de minutes environ. Et d'ailleurs, le titre change. Il passe de The Grand Masters, qui se concentre sur trois grands maîtres, à The Grand Master. Donc, tu sais, on se concentre sur le personnage de Wing Chun. Puis aussi, en fait, j'ai appris qu'il y avait des intertitres qui étaient ajoutés pour aider la compréhension de l'histoire.
Mais ça fait pas de sens parce que quelqu'un qui s'en va voir ça au Québec, de toute façon, il sait ce qu'il s'en va voir. Mais il me semble que ça fait comme vraiment. Aïe, aïe, en tout cas.
Ouais, je sais, c'est ridicule. Puis c'est de plus en plus le cas. Hein. Aussi, mettons un film comme 13 Assassins de Takashi Miike, la version. Original durait comme 30 minutes de plus que la version qu'on a eue ici. Même en DVD et Blu-ray. T'sais. Donc, des fois, c'est un peu frustrant pour les cinéphiles que, justement, comme tu dis, Rémi, ceux qui s'en vont voir un film de Wong Kar-wai, c'est pas mal des cinéphiles avertis. Je pense pas que c'est Monsieur Madame Tout-le-Monde qui fait comme. Puis d'ailleurs, je vais en parler. Si c'est uniquement, mettons, des fans de films d'arts martiaux un peu typiques, parce que c'est encore une fois l'histoire de Yip Man qui était racontée. Toutes sortes de fois dans les dernières années.
Ouais, ça, je suis vraiment curieux parce qu'ils sont
l'amateur de juste film d'arts martiaux normal va peut-être être déçu en fait du film.
Ils sont rendus à 4 films, je pense, de Hitman. Là, comme... Puis c'est quoi que ça amène de nouveau là-dessus?
Ben, c'est qu'en fait, c'est pas
je
un
sais
film
que tu vas être
d'Hitman.
Très
je pourrais dire ça comme ça. C'est ça. Comme tous les films de Ron Carwai, je pense que le scénario, presque à la limite, c'est un prétexte. C'est sûr que c'est peut-être son film le plus ciblé, le plus concentré, parce que là, il s'attaque vraiment à une biographie, finalement. Mais comme un peu dans son Ashes of Time, qui était un Wuxia, qui a passé un peu inaperçu dans l'ombre, je pense, de Junkin' Express à l'époque, qui était sorti la même année. Mais c'était vraiment un film aussi très, très important, là, qui traitait des questions philosophiques, de la mémoire, du temps qui s'efface, du temps qu'on prend pour les autres, à suivre aussi une quête. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs films, Ashes of Time. Et The Grandmasters aussi, ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'il fait de mieux, selon moi. Mm-hmm. C'est vraiment un film déjà intemporel, je trouve, par son traitement. À part, bon, il y a une chose qui m'a un peu gossé. Il y a une espèce de... Ben, évidemment, c'est un film d'arts martiaux, donc il y a des batailles, il y a des combats, des duels. Et il y a un duel, je vous dirais pas exactement c'est entre qui et qui, mais qui se passe dans une gare de train.
On le voit dans la bande-annonce pas mal.
Oui, c'est ça, il y a des images. Et il y a comme un train qui passe en CGI, puis... Ça date un peu le film, parce que je trouve que c'est un peu comme dans 2046, tu sais, il y a un peu des effets spéciaux au début du film, surtout. Puis ça, je trouve que ça date un peu le film, mais ça à part, là, ça pourrait être un film des années 80 de Wu Xiaoxian, ça me faisait beaucoup penser à son cinéma, ou un film comme justement In the Mood for Love, c'est vraiment dans la même lignée. C'est absolument génial comme film de Grandmaster, selon moi. Encore une fois, grosso modo, l'histoire, c'est l'histoire de ces légendes plus grandes que nature, un peu comme des légendes du Far West, si on veut. Tu sais, vraiment, comme, tu sais, c'est des archétypes, c'est des mythes, c'est vraiment juste des espèces de clichés ambulants auxquels on va s'intéresser juste pour aller capturer une essence des choses, finalement. D'ailleurs, dès le début du film, il y a une grosse scène d'action, celle qu'on voit le plus dans la bande-annonce, qui se passe sous une pluie torrentielle et Kurosawa-esque, là, qui a lieu comme dans une espèce de ruelle entre Ip Man et une vingtaine d'assaillants. Et c'est filmé quasiment comme une annonce de parfum. Tu sais, c'est les gros ralentis, un coup de poing, voire autant d'importance que le pied qui se déplace dans une mare d'eau incroyable. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est pas nécessairement le résultat qui a l'importance, c'est comment on en arrive là, en fait, au combat. Et au début, c'est ça, je craignais un peu, en fait, d'avoir à faire une espèce de film de bagarre un peu idiot et superflu. Tu sais, je pensais qu'on allait juste être dans le slow motion à outrance et la photo beaucoup trop belle. Je crois que le film va plus loin que ça. Le film s'attarde à des questions... des fois très sensorielle et très abstraite, un peu comme on peut se poser des questions dans les films de Malick, par exemple. Et c'est un film vraiment sublime. Il y a aussi un côté vraiment absurde. C'est facile de décrocher du film, surtout si on n'apprécie pas le cinéma de Wong Kar-wai, on n'est pas familier. Parce que,
qu'est-ce que ça veut dire absurde?
Ben, c'est parce que t'as comme, mettons, le personnage joué par Zhang Ziyi, qui est une actrice sublime, selon moi, qui se bat dans... qui est vraiment comme une force surhumaine, qui se bat dans un espèce de manteau de fourrure, là, sûrement signé d'un... peut-être Gucci ou quelque chose de même, en slow motion. C'est super beau, puis t'es comme... Ça n'a pas de bon sens. Son manteau devrait déchirer ou elle devrait l'enlever pour pouvoir se battre convenablement. Mais c'est aussi toute la beauté de la chose, tu sais, c'est juste de proposer un peu des tableaux là, pittoresques. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on est comme dans des espèces de toiles chinoises, des rouleaux là, qui se déroulent, puis on a juste plein de scènes une après l'autre. Parce que le cinéma de Wong Kar-wai, en fait, c'est jamais vraiment au premier degré, je trouve. T'sais, ces films, c'est des films qui sont très nostalgiques, et c'est comme si on se raconte, à travers le médium du cinéma, des histoires qu'on s'invente un peu, t'sais, on bouche les trous. D'ailleurs, il y a un travail très intéressant dans le film, où souvent, il va avoir une pause pour prendre une photo et l'écran va finalement il va avoir un fade au gris, donc une espèce de fondu au gris qui va devenir une photographie. Par exemple, du maître Ip Man avec ses élèves qui regardent la caméra et qui prennent une pause. Et puis, pour moi, c'est un peu le travail du cinéaste Wong Kar-wai, tu sais, qui, un peu, c'est comme s'il avait pris quelques photos et quelques faits d'Ip Man pour en construire un récit.
Tu parles de vraies photos, là, de photographies d'époque.
Non, parce que c'est avec les acteurs, mais ça donne, ça donne comme une espèce d'impression que c'est vraiment des morceaux de temps qui sont capturés, des morceaux d'histoire. Puis pour moi, c'est ça, c'est Wong Kar-wai, le scénariste, qui essaye d'inventer un mythe à travers les quelques faits qu'il a réussi à dénicher. Donc, je ne m'épilerai pas plus longtemps sur The Grandmasters. Pour moi, c'est vraiment un sans faille. un film à voir, mais quand même, il faut savoir à quoi s'attendre. Si vous avez jamais vu un film de Wong Kar-wai, ça peut paraître lent, ça peut paraître un peu pédant, parce que c'est pas nécessairement des... Moi, j'ai presque tout vu de lui, et puis j'adore, là. Mais c'est pas des films nécessairement... Il y a pas de punch, tu sais. T'écoutes pas un film de Wong Kar-wai, tu sais, pour la twist à la fin, tu sais.
Il était mort!
C'est ça où... Ben, tu sais, il y a des films que j'adore avec des punch, tu sais. Old Boy, c'est un de mes films asiatiques préférés. Mais c'est pas ce genre de film-là. C'est vraiment un film où on se laisse bercer par le savoir-faire, vraiment, de Wong Kar-wai dans ce médium. Et puis, même cette fois, il n'est pas assisté de Christopher Dahl, mais le travail de photo reste vraiment, vraiment sublime.
Donc, c'est que ça se demandait en fait si le travail de photo Wong Kar-wai est vraiment signé Christopher Dahl ou est plus signé lui-même. Parce que moi, quand j'ai vu My Blueberry Nights, j'étais un peu turné off parce que j'étais comme bon, disons, on dirait qu'il prend un autre DOP, mais qu'il fait juste pasticher, copier le travail de. Le travail qu'il fait avec Christopher Dahl, mais finalement, je me dis à quel point le DOP a de la force, puis à quel point c'est Wong Kar-wai qui pousse pour tout ça.
Mais je pense un mélange des deux. Je pense
plus
que
ça les... va, plus... Ouais, ouais, c'est sûr, c'est un mélange des deux. Mais...
Je pense que les deux ont grandi ensemble aussi en tant qu'artistes. Ils ont fait tellement de films ensemble. Je crois pas qu'on peut vraiment nier la force de l'un et de l'autre. Les deux ont continué séparément et puis ont offert des films de... sublimes. Là, les films de Christopher Dahl sans Wong Kar-wai sont aussi très, très beaux. Là. Donc, je vous recommande, même si la version qu'on... Mais renseignez-vous sur la durée, en fait, du film Alexandris. On pourrait être chanceux et avoir une version qui dure 2h10. Si c'est la version qui dure 1h45, j'ai peur qu'on en manque des bouts, finalement, puis qu'on oublie un peu plus les personnes. Parce que c'est vraiment, en fait, un triangle de héros qui s'affrontent, qui ont chacun leur raison de défendre leur code d'honneur... C'est des comptes à régler qui datent de plusieurs générations. Parce que j'ai pas vu la version, c'est ça, charcutée. Mais c'est vraiment dommage. T'sais. Est-ce qu'on accepterait ça, là, de voir une version charcutée de Tree of Life, t'sais, parce que pour la rendre plus compréhensible? Pour moi, c'est un sacrilège.
Ouais, ben vraiment, là, tu perds vraiment l'essence du film, il me semble. Là. C'est beaucoup, là, c'est 20 minutes, là. C'est comme. C'est pas de censurer des affaires pour notre petit public, mais c'est comme. C'est 20 minutes, là. C'est un gros chunk,
c'est
là.
C'est remanié, en plus.
Oh my god, en tout cas, je trouve ça insultant.
Sauf que, pour mettre un peu un petit bémol, supposément que Wong Kar-wai aurait assisté, en fait, le remontage. Ben, assisté, c'est un grand mot, mais aurait approuvé. Bon, je sais pas à quel point qu'il y avait le bras tordu pour approuver, là.
Ouais.
Mais supposément que Wong Kar-wai aurait approuvé, mais tu sais.
En même temps, quand on te dit c'est soit ça, ou soit tu distribues pas ton film en Amérique, tu sais.
Ouais, c'est ça. Approuve.
Ouais.
Ouais,
c'est mais il y aurait eu du monde de toute façon qui l'aurait écouté. Tu sais, le monde qui va voir Wong Kar-wai, c'est du monde qui va voir Wong Kar-wai.
Exactement.
En tout cas, oui.
Donc, bref, c'est ma recommandation que je peux pas recommander plus que ça, je pense. Allez voir ça et laissez-vous bercer par cette ambiance visuelle remarquable. Et toi, Pascal, tu as vu cette semaine un documentaire qui t'a jeté à terre, c'est ça que tu me dis?
C'est ça, oh, ouais, rien de moins. Mais écoute, parce que là, on est positif au podcast, mais il faut être positif parce que, tu sais, moi, j'écoute, bon, on écoute tous vraiment beaucoup de films. Puis, ben, ceux qu'on a envie de parler, évidemment, c'est ceux qu'on aime le plus parce que, en fait, j'ai vu, cette semaine, j'ai vu déception après déception, puis j'ai comme vu un film qui m'a abasourdi.
Moi, d'ailleurs, des fois, il y a des bons films aussi que je passe sous silence par manque de temps. Ben, si on fait sûr. Un choix éditorial aussi.
Ou des films vraiment moyens, en fait, je veux juste comme en accrocher. J'ai vu Frances Ha, le nouveau film de Noah Baumbach au cinéma, puis en fait, c'est bien, c'est vraiment pas mauvais, mais c'est tellement pas. Plus que ça, puis je me dis, il me semble, je manquerais de jus en parler, j'ai pas envie de parler de ça, ou bien Only God Forgives, est-ce c'est que ça. Vous voulez qu'on se craigne et qu'on parle d'Only God Forgives? My God, quel film
c'est ça. Ça dépend en fait à quel point t'as goût de te faire des ennemis. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est comme la tagline de Social Network, tu sais, you don't get to, je sais pas moi, 453 likes without making a few enemies.
Mais des ennemis, pour vrai, j'ai pas entendu une personne parlant en bien de ce film-là. J'ai entendu vos commentaires qui étaient désastreux, puis j'ai vu du monde sur Facebook juste, je viens de voir Only God Forgives et c'est de la merde. Pour vrai, j'ai pas rien entendu de positif là-dessus.
Ouais, ben en fait, c'est que disons que c'est juste le film avec le plus de talent au pied carré qui fait le plus mauvais film collectivement. C'est comme si tout le monde se mettait comme... Tout le monde, plein de génies se mettaient ensemble puis se sont dit, quel pourrait être le pire scénario qu'on orchestrerait de la façon la plus sublime possible. Parce que la direction photo est géniale, il y a quand même des bonnes idées de mise en scène, il y a des bonnes idées, des cadrages, le design sonore, la musique. Cliff Martinez a fait de quoi de vraiment génial avec le film. On a Ryan Gosling, Kristen Scott Thomas, puis on fait un navet, je comprends pas. Bref, j'en parlerai pas plus parce que c'est pas de ça que je veux parler.
Puis, d'ailleurs, Ryan Gosling, là, je sais pas c'est quoi son salaire, mais il était payé cher du mot. Hein.
My God. Sois beau et tais-toi.
Là. je sais pas combien de phrases il dit dans le film, mais c'est pas beaucoup. Là. C'est un peu comme, tu sais, avec Kurt Russell dans Soul 2, là, que supposément il détient le record du plus grand nombre d'argent par mot. Là.
Ouais, c'est vrai. Mais, my God, Only God Forgives. Hey, c'est gratuit, là. C'est tellement inutile comme film. Bref, c'est pas d'Only God Forgives que je veux parler. C'est vraiment, on passe du film le plus vain intellectuellement au film le plus stimulant intellectuellement, pratiquement. C'est le documentaire de Gatekeepers, qui est rien de moins que le meilleur de... En fait, ça compléterait... moi, j'ai vu donc tous les documentaires qui étaient nominés aux Oscars l'année dernière. Et sans l'ombre d'un doute, puis ça inclut, puis j'ai adoré Searching for Sugar Man, mais définitivement. Puis il y avait aussi le film de Sarah Pauli qui avait fait un magnifique documentaire qui n'était pas aux Oscars, mais Stories We Tell, qui est un film sublime que je recommande vraiment beaucoup au passage. Mais The Gatekeepers, my God, c'est un film essentiel, rien de moins.
C'est de qui ça déjà?
C'est Dror Moreh, M-O-R-E-H, c'est sûr que je ne l'ai pas prononcé comme du monde.
je te testais en fait.
Ok, bon, regarde, écoute. Mais c'est un film israélien qui traite vraiment d'enjeux israéliens, mais qui traite d'enjeux israéliens, traite toujours par la bande d'enjeux arabes, moyen-orientaux et de facto mondiaux. Donc, est-ce qu'on fait un peu d'histoire, les amis? Je vais vous faire un peu d'histoire. On va parler d'Israël. Donc, Israël. Israël, en fait, qui est sur le terrain de l'ancienne Palestine. Israël, ça, c'est de mémoire. En passant, là, j'ai pas comme genre mes petites notes. Là, on n'est pas préparé au podcast. Mais Israël, en fait, a été fondé. L'État d'Israël a été fondé en 1948. C'était vraiment suite à la Deuxième Guerre mondiale, au ravage que la communauté juive a vécu, lié, dans le fond, à l'Holocauste. Et, c'est pas juste ça. Là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangers économiques qui ont fait en sorte qu'il y a un État juif au Moyen-Orient, sur Terre Sainte, en 1948. En 1967, il y a eu la guerre de 6 jours. Et puis là, en fait, il y a The Shin Bar. Ça, c'est en anglais. Là, peut-être qu'en français, c'est autre chose, mais je vais le dire en anglais parce que j'ai vu les sous-titres en anglais. Shin Bar, c'est un peu l'espèce de CIA israélienne, si on veut. Ça, c'est très simplifié, mais ça reste ça. Donc, les services secrets qui ont un peu droit de vie et de mort sur bien des affaires, qui travaillent main dans la main avec le gouvernement, qui font des assassinats ciblés. Et puis, le film de Gatekeepers a pris tous les membres encore vivants qui ont déjà été à la tête de cette organisation-là et les a réunis pour faire un film de Talking Head, dans le fond, un film d'entrevue. Donc, il y a une entrevue avec chacun des membres dirigeants de la Shin Bar qui sont toujours vivants. C'est tout simplement le meilleur film d'entrevue qui se peut. Puis j'ai inclus The Fog of War d'Errol Morris, qui est un film vraiment, vraiment, vraiment génial, aussi un documentaire génial. Mais en fait, c'est qu'on a pris tous ces dirigeants-là, puis on retrace un petit peu toute l'histoire d'Israël. Donc là, t'as évidemment les conflits israélo-palestiniens. Après ça, t'as eu plusieurs incidents qui se sont produits à travers l'histoire. Puis là, t'as un peu tout... ces anciens dirigeants-là qui parlent avec tellement de désinvolture, puis tellement ouvertement... de plein d'affaires que c'est sûr qu'ils étaient excessivement classified là, à l'époque où ça arrivait. Puis, t'as juste les dénominateurs communs de chacun de ces dirigeants-là qui parlent en fait de l'avenir du monde arabe, de l'avenir d'Israël, de comment... c'est tellement, 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 tellement riche. Je sais pas, excuse-moi, c'était hyper décousu, là, comme il n'y a pas de synopsis à
mais
faire.
Mais la manière que t'en parles, c'est quasiment... C'est drôle, une drôle de comparaison, mais tu sais, comme quelque chose comme la commission Charbonneau, que enfin tu as une espèce de témoignage comme de ce que les gens pensent vraiment.
Exact.
Puis comment ça marche dans le film? Est-ce que leur identité est dévoilée? Tout est clair? Ou
Oui, c'est ça. C'est t'as tel personnage qui va parler, puis il va parler pendant un certain temps, puis là, tu vas avoir un title card qui va dire tel personnage, il a été à la tête de la Shin Bar entre 1987 et 92, par exemple. Puis là, il continue à parler. Le film est découpé aussi par chapitre. C'est très, très bien rythmé. Ça peut sembler aride, hein? Je le vends peut-être comme un film qui est aride, mais non. Puis au final, t'en apprends beaucoup. T'apprends beaucoup sur l'histoire, en fait, des conflits, du conflit israélo-palestinien, mais de tout ce qui se passe dans le monde arabe. Puis aussi, c'est très pertinent pour présentement ce qui se passe avec le printemps arabe puis toutes les révolutions qui se passent dans tous ces pays-là. Et le fait qu'Israël est toujours, toujours, toujours au cœur de toutes les controverses, puis de chaque révolution, il y a tout le temps des points qui sont lancés à Israël, et bref. Donc, c'est un film qui est excessivement pertinent, parce que t'as juste comme ces hommes-là, c'est comme si tu mettais des dieux, tu sais, c'est comme c'est quasiment mythologique, là, j'oserais dire, parce que c'est comme si tu parlais à des demi-dieux, tu sais, puis que chacun pouvait juste parler librement de tout ce qui se passe. Puis c'est des initiés, là, ils savent tout, ils connaissent tous les secrets d'État, là, ils buvaient du thé avec les présidents là, israéliens. T'sais. Donc, c'est juste un film à voir. T'sais. Puis, en tout cas, moi je trouve que c'est... Donc, oui, Sugarman, c'est le fun, là, mais on n'est pas aussi pertinent. Là, Sugarman, c'est très, 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 ben, très bon.
De toute façon, c'est pas le même but. C'est pas...
Non, c'est pas le même mandat, mais non. Vraiment... The Gatekeeper, ça m'a jeté à terre.
Puis à quel point c'est accessible? Est-ce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de connaissances historiques de base?
Ben, ou... pas trop, en fait, quand même. Parce que au début, il y a quand même certains titres un peu qui font de l'exposition. Bon, c'est quoi la Shin Bar? C'est quoi son mandat? Qu'est-ce que ça fait? Donc, on est quand même pas catapulté dans le néant. Puis aussi, quand on relate des événements historiques, on a des images d'archives, des reconstitutions en 3D pour dynamiser le récit, parce que c'est pas que des talking heads. Bon, c'est 90% en entrevue, mais bon, il y a quand même... On essaie de dynamiser le récit comme on peut. Puis finalement, ça le rend assez accessible. Je veux dire, quand tu suis, tu comprends. Puis c'est de l'histoire, en fait. Mais c'est de l'histoire doublement plus palpitante et intéressante et stimulante intellectuellement, là.
D'accord, d'accord. Ben, ça a l'air. C'est dur de commenter sans l'avoir vu, mais ça a l'air très bien.
Ben, c'est ça. C'est pour ça. C'était plus un exposé qu'une critique, en fait. Mm-hmm. Désolé, les gars, je vous ai pas vraiment fait participer à mon The Gatekeepers, mais c'est malade mental. C'est le, en tout cas, à mon humble avis, le meilleur documentaire de l'année dernière. De ceux que j'ai vus, puis j'en ai vu beaucoup.
Moi, je suis comme partagé de ce que j'entends parce que je file justement que ça a l'air super lourd, mais en même temps, ça a l'air super pertinent. Fait que j'en
trouve. Ah non, ouais. Mais je suis pas curieux de voir ça. Je veux dire,
tu meurs.
C'est un documentaire, là. Un documentaire, c'est un peu ça, sa vocation, là, au-delà de comment ouais, c'est ouais, fait ouais. Formellement. Je veux dire, tu veux brasser des affaires, tu veux que les gens en parlent, puis. Ça, tu sais, en fait, si les Palestiniens faisaient leur gatekeeper à eux, peut-être que les deux parties pourraient s'entendre. T'sais, peut-être qu'Israël pourrait écouter. En tout cas, je trouve que ça en prendrait plus des nations qui soient capables d'être aussi honnêtes. Ça en prendrait un de gatekeepers avec la CIA, tu sais. Ça en prendrait un de gatekeepers avec pratiquement tous les pays, là, en Russie avec le KGB, par exemple.
Ah, mais c'est intéressant. Mais en fait, c'est ça. C'est sûr que les documentaires sont plus importants que d'autres, mais ça veut pas dire pour autant qu'un documentaire se doit nécessairement d'avoir un grand message politique.
Oh, ou, ben non, je sais, Pumping Iron, c'est bon, là, tu sais.
Ouais, exactement. Puis d'ailleurs, juste pour rebondir vraiment rapidement, mais un des meilleurs documentaires que j'ai vu cette année, puis j'en ai vu une couple, là, mais c'est pas un documentaire de 2013, mais ça date de 2009, si je ne m'abuse, ou 2010, je pense, n'avait pas été nommé aux Oscars. Ça avait fait un mini-scandale à l'époque, mais je pense qu'à chaque année, comme il y a du monde qui se demande « pourquoi tel documentaire n'est pas nommé, etc. » c'est le film Senna, en fait, ouais. D'Azif Kapadia sur le
Ayrton Senna.
C'est ça, le conducteur, le pilote, ça, je cherchais, le pilote de Formule 1, qui est, selon la plupart des experts, le plus grand comme chauffeur de pilote de Formule 1 de tous les temps. Et j'en dirai pas plus, mais ce film-là, évidemment, bon, c'est une biographie. C'est quoi la portée sociale d'un film comme ça? Le travail de mémoire, peut-être, l'amour du sport, l'espèce de underdog story d'un homme qui réussit à défaire un peu sa condition sociale, pas nécessairement précaire, mais c'était pas non plus l'espèce de personne qui arrive déjà millionnaire. Mais au-delà d'une espèce de mandat, tout le reste, c'est absolument formidable dans Senna. Il y a plus de thrill dans un film de même que dans n'importe quel suspense d'Hollywood que j'ai eu cette année. Mm-hmm. Je veux dire, c'est un film magique. Puis le pire, c'est que dans ce film-là, il n'y a aucune nouvelle entrevue. C'est que des images d'archives, puis je trouve ça d'autant plus fascinant. C'est-à-dire que le film, dans un sens, dormait depuis une bonne vingtaine d'années sans que personne ne l'ait fait, ce film, tu sais. Dans un sens, c'est juste un fan footage film. C'est vraiment juste un travail de montage. Donc, pour moi, là, c'est une claque. Puis si j'avais un cours de documentaire à donner, mettons, là, ce serait comme un film que je donnerais à des étudiants de documentaire. T'sais. Parce que justement, il n'y a aucune nouvelle entrevue qui a été faite. C'est que de la recherche puis du montage. Puis c'est hallucinant. Mais bref, ça, c'est une courte parenthèse. Maintenant, un film qu'on a vu tous les trois. C'est un film que j'avoue, j'attendais pas nécessairement. Ça a été une belle surprise d'un cinéaste, encore une fois, que c'est pas un de mes cinéastes préférés, mais peut-être un de nos plus connus mondialement, facilement l'un de nos plus connus. C'est Denis Côté avec son nouveau film Vic et Flo, Vic plus Flo ont vu un ours, son 7e long métrage. Qu'est-ce que vous avez pensé, les gars, de Vic et Flo?
Ben, c'est un film vraiment plus standard que ce qu'il fait d'habitude, là. Ben, standard, en fait, ça reste
Dans
du
la
Denis
limite de
Côté.
Denis
C'est
Côté.
ça, c'est ça. Ça prend un méchant edge, mais tu sais, quand tu... Moi, j'ai vu, en fait, Bestiaire, qui est un film. En tout cas, c'est un film. Je sais pas si c'est un documentaire, je sais pas si c'est expérimental, mais c'est un film, en tout cas. Puis j'ai vu Carcasse, là, qui part comme un documentaire, puis qui switch à la fiction aux trois quarts, qui est aussi comme une forme complètement éclatée. Parce que, tu sais, on dit il est connu mondialement, mais en fait, Denis Côté au Québec, là, si t'es pas vraiment calé en cinéma, tu connais pas Denis Côté, là, de base. Là.
C'est ben comme c'est un... ça, c'est ça. Denis Côté, c'est un peu l'espèce de chouchou des festivals, des cinéphiles, mais qui est comme, tu sais, nul n'est prophète en son pays, là.
Ben, ouais, je pense que c'est vraiment le cas parce que j'ai parlé, tu sais, je parle, je veux pas, on en parle avec beaucoup de cinéphiles là, au Québec. Puis c'est rare le monde qui me dise qu'ils sont vraiment des grands admirateurs de Denis Côté au Québec. On dirait que je sais pas à quel point il est apprécié ici. Tu sais, au-delà de là, même chez les cinéphiles et les critiques, je pense qu'il n'y a pas vraiment une niche. Puis. Des approbateurs, des fans ardents.
Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose tellement en marge de tout le monde, mais Vic et Flo, c'est un film qui est narrativement plus standard. Ça reste super éclaté, il y a des trucs assez étranges tout le long, comme il met dans tous ses films, mais on dirait que tout est là-dedans, tout est plus justifié et compréhensible. Puis la forme narrative, c'est un début, milieu et fin. Là, il y a vraiment quelque chose qui est raconté dans un format plus... classique, là. C'est vraiment dur d'en parler, en fait, ouais. Comme ça, parce que ça reste un film de Denis Côté.
Je suis d'accord avec toi, Rémi, là-dessus, mais je veux dire que la fin, tu pourras jamais la prévoir en regardant que le début.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Non, c'est clair, puis en même temps, je trouve qu'il y a la belle balance entre l'espèce de folie expérimentale, je vais réutiliser le mot que tu as utilisé plus tôt, un peu pédante, là, parfois, là, qui peut sonner un peu comme... Mais je trouve que dans Vic et Flo, on dirait que quand on a des excès stylistiques puis des espèces de pointes expérimentales un peu truffées qui va parsemer au travers de son récit, on dirait qu'ils sont vraiment les bienvenus parce que c'est un film d'atmosphère. Autant que ça, c'est une des très bonnes qualités de Curling, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Curling, l'atmosphère, le froid, le vent, le côté reclus des personnages, tout était vraiment bien senti. Bon, Curling, moi, je trouve que c'est vraiment pas un film parfait. Je trouve que c'est un film qui réussit à certains endroits, mais qui échoue lamentablement à d'autres. Là, bon, j'entrerai pas dans les détails. Mais je trouve que dans Vic et Flo, on est vraiment sur une corde raide tout le long. Puis je trouve qu'il bascule jamais trop d'un côté. Le côté narratif est le fun, mais il est pas trop classique. Parce que moi, j'ai trouvé que ce qui est vraiment intéressant dans son cinéma, c'est son utilisation des non-dits. Puis dans Vic et Flo, il en fait vraiment... En fait, le synopsis, c'est que y a un personnage joué par Pierrette Robitaille qui arrive dans une maison de campagne. On est bien dans la forêt. On ne sait pas on est où, en fait, puis on s'en fiche exactement de savoir quelle ville et tout.
Bon, on est loin. On est
on est loin,
ouais, loin. Dans une place marginale, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis elle, on comprend, parce que on le saura jamais. Puis chaque personne peut évidemment se faire son propre scénario. Mais on comprend qu'elle veut refaire sa vie. On comprend un peu plus tard, puis j'ai quasiment peur de le dire, mais en même temps, c'est pas des punch parce que c'est une petite phrase, tu sais, dite par-ci par-là. Mais on comprend que qu'elle avait une sentence à perpétuité, puis que là, en fait, c'est comme son espèce de test. Donc on peut imaginer facilement qu'elle a passé toute sa vie en prison. Mais ça, c'est important à comprendre parce que ça la rend touchante un peu, ce personnage-là, tu sais, de savoir que c'est peut-être quasiment la première fois qu'elle est dehors depuis X nombre d'années, je trouve qu'on dirait que ça la rend d'autant plus complexe. Et d'autant plus complexe qu'on ne sait pas non plus ce qu'elle fait, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe.
Bon. Parlons de Pierrette Robitaille.
Ouais.
Quel beau rôle.
Moi, j'adore Pierrette Robitaille. J'ai toujours, depuis que je l'ai vu courir après le petit gars dans Laurent Cadieux, là, j'ai un kick sur Pierrette Robitaille. Là. Pour vrai. Là. Non, mais je sais pas, mais c'est un rôle tellement lourd et tellement complet. Puis tu parlais de punch, Pascal, mais c'est que le. Tu sais que justement, on peut pas trop en dire, mais c'est parce que le film, de la façon qu'il est construit, c'est que tu connais genre petit peu à petit peu les personnages, puis c'est pas direct dans ta face au début qui est le personnage. C'est que tu découvres toute la profondeur, mais tu sais, sur le film complet, là, puis vers la fin, tu découvres encore des nouveaux éléments de ces personnages-là, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis c'est ça qui est fantastique, parce que c'est des personnages vraiment profonds, puis tu peux vraiment, t'es rendu à la fin, quand t'apprends des nouveaux trucs sur eux, tu peux vraiment revenir au début du film, puis réfléchir à ce que t'as vu de ce personnage-là, puis voir tout le sens que ça prend là, avec du recul.
Oui, oui, puis je vous soutiens, je trouve que Pierrette Lhôbitaille a fait vraiment, attire vraiment bien son épingle du jeu. Il y a quelques personnages secondaires, moi, que j'ai trouvé un petit peu moins convaincants, mais en même temps, c'est pas un film nécessairement tant que ça d'acteurs. Je trouve que c'est quasiment plus un film d'atmosphère.
Tu trouves? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que il y a comme, encore une fois, sans trop vouloir en dévoiler, parce que c'est un film qui se laisse découvrir, une espèce de belle énigme qui se dévoile lentement. Mais disons qu'il y a trois femmes dans le film. Tu sais, ça, c'est pas dire grand-chose.
Ouais, c'est un trio puissant, ouais.
C'est ça. Ces trois femmes-là sont magnifiques, sont très bien dirigées. Tu sais, des beaux rôles de femmes. Tu sais, c'est le fun au Québec de voir des films comme ça qui donnent des rôles si riches, si différents et sans complexe, tu sais. Puis, il y a des choses qui vont être dévoilées dans le film que c'est comme, c'est pas un choc. C'est pas là pour choquer. Tu sais, comme par exemple, il y aurait peut-être un ou plusieurs personnages homosexuels dans le film, j'en dirais pas plus. Mais c'est pas comme, tu sais, à gros traits, là. Tu sais, c'est pas genre. Je sais pas, c'est le fun de juste voir la richesse. Puis aussi, c'est pas des jeunes femmes, là. C'est vraiment, tu sais, des personnages du presque. Non, pas du troisième âge, là. Mais.
Ça, Pierrette Robitaille est dans la soixantaine.
C'est ça. T'sais, on approche, tu sais, du troisième âge. Et c'est le fun de voir des beaux rôles comme ça au cinéma. Puis, c'est ça. Il y a peut-être, c'est ça, quelques personnages vraiment mineurs qui sont moins convaincants, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un film là, dirigé de main de maître, autant au niveau des acteurs d'ailleurs que de la mise en scène. Pour moi, c'est rien de moins que l'aboutissement, en fait, de la démarche de Nicoté. J'ai toujours trouvé, en fait, encore, je ne veux pas non plus me mettre dans la tête de Nicoté, mais on dirait qu'il cherchait un peu, tu sais, il tâtait, il expérimentait beaucoup. Et puis, tout le savoir qu'il a acquis est comme multiplié par 10 dans ce film-là. Puis là, c'était vraiment l'impression. Là, il y a tellement de marche entre ça puis ses derniers films. Je veux dire, c'est comme un maître en pleine possession de ses moyens.
T'sais. C'est parce qu'en plus, de cette profondeur-là des personnages qui est vraiment développé, ça reste un... Le film est un thriller, dans le fond, là, à un certain point. Là. Ça tombe quasiment... C'est un crime movie, puis... Puis, pour vrai, vers la fin, moi, j'étais vraiment tenu en haleine, puis c'était plus juste un film de personnages, mais un divertissement, là. J'ai vraiment eu du fun à l'écouter, là. Tu sais, des films de même, des films excellents, des films, mais qui sont très lourds, puis que c'est vraiment juste à propos des personnages, mais ça, t'as quand même une espèce de... Je sais pas, là, j'ai eu ma dose de thrill en l'écoutant, là, puis je trouve que ça rajoute justement un step de plus au film quand t'es capable d'offrir un développement comme ça, au niveau émotionnel, puis qu'en plus t'es capable de tenir ton public en haleine, c'est vraiment un tour de force, là.
Ben, disons que le mystère est là dès le début, mais le côté thriller arrive à peu près quoi, à la moitié du film?
Ça c'est du Denis Côté, là.
C'est un coup de baseball d'en face.
Ah, c'est un film cruel.
C'est un film cruel un peu par moment, mais on dirait que j'aime ça, c'est ce genre de surprise-là, un peu comme sans crier gare. T'étais comme sur ton air d'aller, t'étais, mettons, en première vitesse, puis là, tout à coup, OK, tu passes à la troisième vitesse de même, là, comme... Ouais. OK, puis là, on est rendu là.
Puis à la fin, tu tombes dans le fossé, puis...
Ouais.
Le dernier 20 minutes, là, je veux dire... C'est quand le dernier bon thriller québécois que vous avez vu, là?
Et c'est bon.
Puis c'est pas un drame, parce qu'un film comme À l'origine d'un cri, je trouve ça génial, puis ça... joue un peu sur les codes du thriller, mais pas vraiment, tu sais. C'est plus comme un drame psychologique.
Ouais, bon, on pourrait en dire autant de Vicky et Flo, là. C'est pas un thriller.
Ouais, non plus, tu sais, pas au sens classique, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme un film unique dans le paysage québécois, puis moi, en fait, ça me faisait un peu penser au cinéma des frères Coen,
qui nous amène
souvent des places où on s'attend pas à aller, en fait, là.
Ah oui.
L'espèce aussi de manipulation du spectateur, je trouve qu'il est similaire.
Il y en avait un autre film québécois un peu qui empruntait aux frères Coen, ça s'appelle Hot Dog, vous irez le voir. Oh là là, my god. Mais ouais, non, moi, Fiki Flo, en fait, avec le film Le Météore, que personne n'a vu sauf genre moi et quelques personnes. Mais c'est dans les. C'est, tout cas, c'est le meilleur film québécois de l'année. En tout cas, à mon humble avis, là, avec ceux qui restent encore à voir. Il y a Tom à la ferme encore. Il y a Lac Mystère qui supposément est pas mauvais. Ça m'étonnerait que ce soit meilleur, là, ni rien. Mais supposément que Lac Mystère serait pas mauvais. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, film québécois, là, qui va s'en venir, les gars? De bon, là.
Ouf, ben, il y avait Sarah préfère la course, entre autres.
Ouais, 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 mais que, comme qui s'en vient qu'on n'a pas encore vu, à part le Xavier Dolan.
Le nouveau de Néarcan. Je sais pas s'il sort cet hiver ou peut-être début 2014.
Ah, ça, je suis pas sûr. Non, je pense qu'il est en tournage. Ça m'étonnerait qu'il sorte en 2013.
Ça fait oui, il est en tournage cet été.
On va faire nos recherches. Mais mon point, c'est que ça m'étonnerait pas que Vicky Flo s'inscrive comme peut-être le film québécois de l'année en termes de qualité, en tout cas, à mon avis. Ouais. Sur un même pied avec le Météore, mais qui est un film qui est tellement différent.
Gabriel, les microscopes.
Ouais, le
film que tu attends tellement.
Ben, écoute, il a gagné le prix du public à Locarno, le même prix que M. Lazare avait gagné il y a quelques années.
OK, mais prix du public, pour vrai, j'ai la misère avec ça. Parce que quand t'as un film feel good, qui est genre définitivement un. Bon, M. Lazare, c'est pas tout à fait un feel good movie, mais quand même, tu sais, c'est beaucoup plus facile d'avoir des films dans un sens léger et positif qui vont rafler les prix du public. Que des films plus durs d'accès et potentiellement peut-être meilleurs.
Mais c'est pas mal, ça.
C'est pas mal, mais tu sais, c'est juste qu'il y a comme une espèce de catégorie de films qui vont souvent rafler les prix du public. C'est souvent des films similaires, tu sais, comme Feel Good.
Oui, mais peut-être que c'est bien alors pour qu'on ait des prix du public comme ça, parce que c'est rarement ce genre de film-là qui va gagner l'Oscar ou qui va gagner la Palme d'Or.
Donc, ben, la Palme d'Or, je suis d'accord. L'Oscar, c'est quoi les derniers films qui ont gagné? L'Artiste, L'Homme Dog Millionnaire, The King's Speech, tu sais.
Ouais, j'avoue. Ouais, tu m'as bouché avec quand même trois exemples assez paf, là.
Puis, toi, Rémi, d'autres choses à dire sur Vicky Flo?
Ben, une dernière affaire, c'est que, en plus que, tu sais, c'est quand même assez dramatique, pas mal tout le long, mais il y a vraiment ces moments de sourire. Puis, tu parlais des frères Coen, mais c'est vraiment un peu à cette image-là. T'as des personnages qui sont un peu grossiers dans le film, puis tu sais, de la façon qu'ils parlent, c'est très québécois, puis il y a vraiment des expressions des fois qui sortent qui sont tellement drôles, puis c'est vraiment un rire très franc que tu pousses quand t'écoutes ça, là. Puis ça, j'ai trouvé que c'est une force, en fait, parce que un drame qui reste toujours à terre, c'est vraiment, en fait, tu peux pas vraiment sentir l'émotion. Si t'es pas capable de remonter, tu pourras jamais, t'sais, redescendre. Mais c'est ça, mais je trouvais que l'humour dans le film était bien placé. Puis je trouve que des fois, dans les films québécois, ils essayent toujours de faire des espèces de petites blagues, là, de comédie. On va revenir à Hot Dog, là, je l'ai pas vu, mais j'ai vu l'annonce, puis il y en a en maudit des jokes, des petites jokes de dialogue. Mais là, les jokes de dialogue, ils marchent vraiment, puis c'est vraiment très ancré dans le langage québécois. Puis vraiment, Pierrette Robitaille, elle a un bon bagage comique, puis ça marche super bien là-dedans, en fait, au travers de son rôle qui est ultra dramatique. Il y a ces petits moments comiques-là qui donnent un ton vraiment, un super ton au film. Là.
C'est vrai que je pense qu'en termes de, juste en quantité de rire là, que j'ai eu, puis en qualité de rire que j'ai eu pendant ce film-là, c'est sûrement genre plus de rire, de meilleure qualité que n'importe quelle comédie cette année québécoise.
Ben écoute, moi j'ai ri plus, bon oui, je suis d'accord, j'ai ri plus dans Vicky Flo que dans Hot Dog. Ça, encore une fois, je peux vous le confirmer.
Pourquoi on fait des comédies aussi insignifiantes, en tout cas?
Oh God.
Ça, c'est un autre débat.
Les films pas exportables, puis ouais.
En plus, c'est ça.
Tu sais, comme Hot Dog, je veux dire, t'en vas pas ça dans un festival, là.
Ben, en fait, il y a le remake américain, Burger, qui s'en vient.
Double cheese.
Puis en Europe, c'est avec le Big Mac.
Le Big Mac.
OK, donc ça conclut Vic et Flo. Non, mais allez le voir, sérieusement. Ouais, moi je pense que, tu sais, on parle souvent de crise du film québécois, etc. Mais tu sais, pour une fois, là, je veux dire, non, pas pour une fois, à chaque année, il y a des bons films québécois, mais là, on en recommande un vraiment aveuglément, selon moi. C'est vraiment un film, là, faut aller voir ça, faut encourager nos cinéastes, donner une chance à Denis Côté, peut-être pour ceux qui ont été rebutés un peu par peut-être son style un peu austère jusqu'à présent.
Ah, comme je l'ai dit, c'est ça. Puis je pense que toi, tu l'as dit, Paul, moi, je te relance là-dessus. Moi, Denis Côté, c'est vraiment pas tout le temps là, un joyride, là, à mon avis, mais Vicky Flo t'embarque dès le début, puis on dirait que le film fait juste te surprendre palier après palier après palier jusqu'à la fin, un dernier 20 minutes. Toi, Rémi, je pense que tu as dit que tu trouvais qu'il tirait un petit peu en longueur. Moi, j'ai trouvé, peut-être, mais en même temps, il y a assez de beauté métaphorique.
Parce que c'est pas le film, c'est la fin que je trouvais que. C'est parce que le film a comme quatre fins à un moment donné, puis c'est vraiment comme. Ah, ça va finir là? Non. Ok, là, ça va finir là? Non. Je trouvais que c'est juste la fin qui a été un petit peu trop étirée. En même temps, il en donne plus. C'est pas des trucs qui sont vraiment dérangeants. C'est pas des trucs qui sont vraiment de trop comme tel, mais je trouvais juste que le film, il a peut-être pas fini au bon moment. Il aurait pu finir un peu plus tôt, puis ça aurait été, j'en aurais eu pour mon argent, puis j'aurais été bien content. Je pense pas que c'est un problème qui fait cracher le film, mais ouais, c'est ça. Là, c'était...
Mais en même temps, je veux dire, tu parles toi de la toute fin, là, mais je t'ai pas, tu sais, le dernier acte au complet, ouais, je te dirais quasiment, là, wow, tu sais.
Ouais, c'était fantastique, là. Ah, ouais. Ouais.
Puis encore ça, je trouve que c'est un film cette année, ça m'a fait penser, dans un sens, ça me rappelle un peu Mud de Jet Nichols, qui, ça prend du temps à embarquer, on dirait, tu sais, puis c'est pas nécessairement un défaut non plus, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir tous les films qui commencent avec un gros bang, puis une espèce de scène incroyable dès le départ, tu sais, parce que, je sais pas si vous vous rappelez vraiment de la scène qui ouvre Vic et Flo, qui va d'ailleurs avoir une instance plus tard, mais c'est vrai, dans un pur point de vue narratif, c'est une scène qui ajoute rien, dans un sens. Mais on découvre les personnages petit à petit, l'ambiance, le lieu, puis tu sais, tu t'attaches, veux pas, puis là, à force que t'en apprends plus sur les personnages, mais tu crées vraiment un espèce de lien, je trouve. Donc, c'est le fun aussi, des films dans même qui prennent le temps, tu sais, de...
Ben, qui prennent le temps sans être emmerdants, ouais. Tu sais, parce que des fois, la ligne est mince, tu sais, c'est ça. Ouais. Curling, la ligne est... On était au bascule un petit peu, je trouvais.
Bref, Vic et Flo, on veut un ours dans tous les cinémas... Non, pas dans tous les cinémas. Dans quelques cinémas à Montréal dès le 23 août. Ou le 30 août?
Non, c'est pas ça, c'est le 6 septembre.
Ah, c'est le 6 septembre, on l'a vu tôt. Donc, le 6 septembre, on vous recommande d'aller voir ça. Qu'est-ce qui sortait en DVD, Rémi? C'est quoi ton top 3?
Donc, d'abord, le premier film que je suggérais est Scary Movie 5, avec les excellents Lindsay Lohan et Charlie Sheen. C'est pas vrai, là? Il y a Amour qui sort cette semaine, donc je pense qu'on l'a assez recommandé dans des épisodes précédents. Amour qui sort en DVD. Puis Paul, ben là, t'es dû pour le voir, fait que, ouais. Puis t'es dû pour nous donner tes reviews sur le film. Là. Ouais. Ensuite de ça, j'ai noté le film Boudou sauvé des eaux qui est réédité, le film de Renoir des années 30. Et Nightmares Come at Night, un film de Jesus Franco, j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est toujours un cinéaste qui est assez edgy, puis si ça a valu une réédition DVD, ça doit être un film quand même à voir. Là.
Ok, mais ça c'est quand même un cinéaste, il faut savoir à quoi s'attendre.
Oh my god, ouais, ça peut être assez edgy, ça peut être... surtout ces films d'horreur sont ultra trash, là. Mais j'ai un petit extra par exemple pour Pascal, les Cités d'or qui sont réédités en DVD, trois coffrets différents. Je pensais qu'ils venaient juste d'être réédités, mais bon, ils sont réédités là.
Bonne Cités d'or, ça rock.
C'est pas mal ça pour cette semaine.
Puis en salle, Pascal, qu'est-ce que tu suggères?
Hey, les films CV frappent fort avec mes trois suggestions qui sont les trois distribués par les films CV / E1. Québécois, Lac Mystère d'Éric Annuel avec Maxime Godette et Laurence Leboeuf. On a The World's End de Edgar Wright avec Simon Pegg, Nick Frost et Martin Freeman, dont on a parlé la semaine dernière dans le dernier épisode. Assez positif.
Et aussi auquel vous avez parlé.
Ah oui, c'est ça. Ben oui, évidemment, avec notre fameuse entrevue avec Edgar Wright. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, autant dans la comédie que dans le film d'action. Je sais que j'ai lu justement une review tantôt. Je tuais le temps en attendant Rémi, qui était en retard à notre rendez-vous au podcast.
Ouch, burn!
Non, mais... Non, je te niaise, Rémi. Mais je lisais une review, puis en fait, Carl Fillon a vraiment pas aimé la deuxième moitié du film, où ça devenait vraiment plus film d'action. Je suis d'accord que peut-être que la plus grande force du film est au niveau de la comédie. Or, moi, l'action over the top avec Simon Pegg et Nick Frost qui continuent à faire des blagues dans leur chorégraphie de combat, c'est assez à voir, à mon avis. Donc, The World's End, allez voir ça, 100%. Et finalement, The Grandmaster, une version de 1h48, malheureusement, qui sortirait sur nos écrans vendredi. Et voilà.
Parfait. Sinon, sortie cette semaine, on se retrouve au pub Brouhaha le samedi 31 août. C'est la projection du documentaire Adjust Your Tracking, The Untold Story of the VHS Collector. Le film commence à 21h, mais avant, en fait, à 20h, pour Rémi et autres acolytes, échange de cassettes VHS entre collectionneurs et amateurs.
What the fuck, ça va être malade, ça?
Ouais. Donc, amenez vos cassettes, en fait, et puis vous avez la chance d'échanger là, en toute connaissance de cause. C'est 10$ à la porte, ça vous donne droit à la séance d'échange ainsi qu'au film. Puis bon, ben, vos consommations, il faut les payer, bien évidemment. C'était notre point de vue. On va se quitter sur la bonne annonce de Lac Mystère d'Éric Annuel. On va encourager notre cinéma québécois. Mon nom est Paul Landriot et j'étais avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. Over.
Dis-moi, tu sais ce que ça veut dire, le lac Kayon Wahea?
Tu viens d'où, toi?
J'essaie de l'oublier d'où je suis.
I'm your new neighbor.
Ouais, je m'en doutais.
Quoi, t'es français?
Fred. Moreau.
Moreau? Morel. Deux morts, français. Ça sert à signe du destin.
Le look western, ça me va très bien. Tes cheveux roux comme ça, fait plus penser à Kate Winslet cette année.
Kate, huh? I like that.
Tu dis que t'étais juste une danseuse?
C'est juste parler, là, c'est cool.
Hey, t'es qui pour venir faire le trop-bicette?
Leonardo DiCaprio.
Ça a toujours été le grand bonheur pour ceux qui t'ont précédé ici. On va changer ça.
Kate, Philippe, Kate.
Hi.
Prenez garde aux pêcheurs. Il n'est pas qui il prétend être.
Tu trouvais quelque chose sur Fred ou Frédéric Moreau?
Non, même pas une contravention. C'est comme si le gars, il n'existait pas.
C'est une putain de moyenne. Là, au milieu, il a disparu dans l'eau!
Ça a pas l'air d'être ici, John.
Une autre disparition. Qui t'a connu? Tu te souviens-tu qu'un pas porteur?
Il a noyé dans le lac.
Il bouge, sacrament, Philippe! Il bouge!
Il y a un dangereux bandit autour.
Tu vis ce gars-là?
Non. Puis il y a un tueur de coyotes dans le bois.
Ah!
Il doit avoir une faille ou un Twilight Zone au lac pour que le nombre de disparus se multiplie de même.
Tu me dis, est-ce que tu es là?
Apprivoise-la avant que la cavale tout entier, d'accord?
Ah! Philippe!
Fais ce que t'as à faire pour te venger, mon homme. Ben, ça veut dire le lac des âmes perdues. Alors, bienvenue au lac.